Oui, en fait, moi, je suis archetier. C'est un métier qui est très, très complémentaire à la lutherie, dans le sens où un violon sans archet, ben, c'est pas la même chose non plus. Mais c'est deux métiers qui sont complètement différents. On a une baguette de bois qu'on va travailler pour réussir à aller, comment je pourrais dire, aller chercher le maximum du jeu du musicien. Faut réussir à comprendre, premièrement, qu'est-ce que le musicien veut, puis ensuite trouver la bonne baguette pour pouvoir le faire, puis ensuite, après qu'on a trouvé la bonne baguette, après, là, c'est jouer sur les proportions, le poids, ce qu'on appelle hauteur crin-baguette, c'est-à-dire la distance entre l'écrin, la queue de cheval et la baguette, qui va changer beaucoup au niveau du jeu aussi. C'est tout un petit métier de petits détails, de feeling aussi, qu'il faut apprendre à connaître. Baguette d'alto. Donc, il n'y a pas d'école dans le monde, nulle part en fait dans le monde qui donne le cours d'archeterie, ben, au niveau de la fabrication. C'est vraiment un métier de maître et apprenti. Donc, moi, mon père fait un métier, ben, est archetier, mais pour des instruments plus anciens, c'est-à-dire dans le style baroque, renaissance et tout ça. J'ai commencé à apprendre avec mon père, j'ai commencé à me former avec lui, j'ai travaillé un petit peu à Montréal, ensuite je suis parti en France pendant quelques temps chez, bah, comme on appelle dans le milieu, un grand maître. Puis je suis tombé chez la bonne personne qui a un talent fou. Moi j'ai commencé par faire des archets baroques, j'ai évolué vers le moderne. Donc c'est deux trucs complètement différents. L'archet moderne, on a incrusté du métal dedans, du coquillage, de la nacre, de l'ivoire, puis tout ça. C'est un petit peu plus complexe au niveau de la fabrication. Par contre, l'archet baroque, au niveau du jeu, c'est beaucoup plus complexe de comprendre comment joue un archet baroque qu'un archet moderne. C'est très, 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 très différent. Il y a beaucoup moins de standards au niveau de l'archet baroque qu'au niveau de l'archet moderne.
Ça va, Manu?
C'est grave.
Quelle était ce bruit?
Une virole 90. Là, j'ai trouvé un truc. Je chume mes viroles de bouton à la lampe à alcool maintenant. Ça te laisse plus de temps d'aller faire plus ta saison.
J'ai fait le conservatoire de Bruxelles pendant 6 ans. De 73 à 81, disons, sur 8 ans, mais pendant 6 ans. Voilà. Donc, au début, c'était le début de la musique ancienne au Québec, un peu. Hein? On fait partie des pionniers, un peu. Hein? Excusez, là, je vais faire une espèce de. Je dois rétablir l'arche un peu. Il faut que ça soit plus droit que ça. Bon. Ben, voilà. OK. J'ai commencé à gratter du bois en 1978. Donc, j'étais musicien. Donc, j'étais le musicien qui veut devenir archetier. Mais j'ai été le musicien qui faisait des archets pendant une dizaine d'années. J'étais le musicien qui faisait des archets en tant que musicien. Un jour, j'ai fait le choix de devenir archetier officiellement. Ce qui n'a rien changé, mais c'est vraiment une question de dénomination. Là, je vais faire la mécanique dans l'archet pour pouvoir insérer le bouton. Et faire actionner la hausse. Alors, quelqu'un m'a prêté sa gelle de lame pour que je puisse essayer les archets. C'est très gentil. Voilà. naissance d'un archet ici, non? Tout va bien, mais je dois pratiquer un peu plus.
Il faut que je pratique. Parce que je fais trop d'archets et je pratique pas assez.
Quand l'archet fait tout ce que je lui demande, c'est parce que ça va. Si on en avait un autre qui faisait mieux, on dirait que c'est encore tant mieux. Mais je crois bien.
On est peut-être dans le monde, quand on parle d'archetier au niveau fabricant, au niveau moderne, au niveau d'archetier fabricant, je dirais peut-être entre 5 et 150. À Montréal, on est pas mal. À Montréal, on est 4 ou 5 à fabriquer. Ben, en fait, c'est que le berceau de l'archetterie, c'est la France, comme le berceau de la lutherie, c'est l'Italie. Et bon, vu qu'au Québec, on a la proximité de la langue, donc c'est plus facile pour nous d'aller étudier là-bas. C'est un métier qui utilise des matières qui sont très rares. Le bois qu'on utilise pour les archets, c'est du pernambouc. C'est un bois qui vient de la côte pacifique du Brésil. Le même bois qui est utilisé depuis 150 ans environ, même un petit peu plus. C'est le bois qui a le meilleur ratio densité, vibration, sonorité. Je crois que c'est en 2007-2008 que la loi est passée au niveau de la CITES, au niveau de la protection du pernambouc. Donc maintenant, le bois est interdit de vente, sauf sous des stocks pré-convention, c'est-à-dire des stocks qui ont été coupés avant le passage de cette loi-là. Mais c'est sûr qu'il commence à y avoir une rareté au niveau du pernambouc, surtout au niveau du pernambouc de qualité pour des archets qu'on dit professionnels, pour des musiciens qui vivent de ça. Ouais. Salut Guillaume! Ben, actuellement, il y a une initiative au Brésil. Il y a beaucoup d'archetiers qui en font partie. Donc, c'est que on remet une certaine partie de notre chiffre d'affaires à une association en fait qui fait de la plantation de pernambouc au Brésil. Donc, je crois que l'année dernière, il y a 10 000 arbres qui ont été plantés. C'est sûr que c'est au niveau de la protection de l'espèce, au niveau de l'archeterie en tant que telle, c'est à voir à long terme parce qu'un arbre qui a atteint sa maturité en 30 ans, c'est un peu pernambouc. C'est pas, le bois sera pas pareil qu'un arbre qui a atteint sa maturité en 80 ans. Donc à ce moment-là, le bois va être différent. Est-ce qu'il va être à même de faire un bon archet? C'est encore à voir.
On n'est pas très bruyant. Hein? Mais ça fait partie de notre environnement sonore. Hein? D'ailleurs, si on n'entendait pas ces bruits-là, on deviendrait insécure. Il y a eu la découverte de l'Amérique du Nord qui a donné les fourrures. Et avec toutes les fourrures qui arrivaient en Europe, ils avaient besoin de tanner les peaux. Au début, on parle fin de la Renaissance. Donc, ils ont utilisé les bois qui provenaient de l'Amérique du Sud. Des bois qui ne pourrissent pas, des bois qui ne flottent pas. C'est des bois extrêmement rigide. Donc avec ça, on pouvait fabriquer beaucoup d'outils pour tanner les peaux. Et on a découvert en tannant les peaux, avec surtout un arbre qui s'appelle le pernambouc, qui était le bois le plus léger, on avait des outils, des machines qui tannaient les peaux, qui en faisaient des espèces de grattoirs. On s'est rendu compte que la poussière issue de l'usure du pernambouc donnait une espèce de tanin qui aidait à tanner les peaux. que ça faisait une espèce de poussière acide. Et on a découvert plus tard que ces poussières-là, de Pernambouc, si on les mêle à différents produits naturels, ça donnait différentes couleurs. Alors, jusqu'au 19e siècle, jusqu'à la fin du 19e siècle, à la découverte de l'aniline, qui est le premier produit chimique découvert en Allemagne pour faire de la teinture, on teignait tous les vêtements pendant des centaines d'années avec la poussière du Pernambouc. Donc, les forêts ont été décimées parce qu'on s'en servait comme teinture. Et nous, les archetiers, on est responsable peut-être de la perte d'1% de ce bois-là seulement. Les forêts ont été vraiment coupées. Et c'était le meilleur bois pour les achats. Alors, pourquoi les Européens connaissaient-ils ce bois-là? Parce qu'il était justement importé en Europe pour le tannage des peaux. Et le bois était là. Quand Tourte a fait son premier archet vers 1760, le jeune Tourte, François Tourte, ben, le bois traînait là, le bois était là. Alors, ils ont tout essayé, toutes les essences de bois, ils ont fait plein de recherches. Écoutez, il y avait des colonies, il y avait la Guyane française, Guyane anglaise, Brésil, tous les pays européens ont fait venir des bois de toutes leurs colonies. Alors, tout a été essayé à l'époque. Quand vous regardez des images d'iconographie du 16e siècle, vous voyez des anges qui jouent avec des archets très, très arqués. Parce que les bois étaient mous. Alors, on voulait de la tension, mais ça faisait des gros arcs. Et plus vous avancez dans l'époque, plus vous avancez vers le 18e siècle, moins les archets sont arqués. Pourquoi? Parce que plus le bois est rigide. Parce que maintenant, on se sert au 18e de bois d'Amérique du Sud. Donc, c'est la succession des hasards. Hein. C'est historique, je veux dire.
Donc, c'est vraiment, on est très, très, très tributaire de la matière de base. Aussi, bon, l'ébène, il n'y a pas de problème pour l'instant. Par contre, actuellement, il y a des coupes massives qui sont faites. Bientôt, l'ébène, ça va être... Il va y avoir des problèmes par rapport à ça aussi. Ensuite, on utilise, exemple, sur les archets, il y a une petite partie qui c'est de l'ivoire de mammouth. Donc, c'est de l'ivoire fossilisé qui a 15 000 ans. Donc, ça aussi, il y a une rareté par rapport à ça. À la base, au niveau de l'archeterie, c'était l'ivoire d'éléphant qui était utilisé. Bon, on comprend pourquoi maintenant, au niveau de la protection puis tout ça, l'éléphant a été banni. Puis même au niveau du métier, on refuse d'utiliser l'éléphant pour la plupart aujourd'hui. Donc, la matière qu'on a trouvée pour, à la place, on va dire, c'est de l'ivoire de mammouth. Il y a des défenses de mammouth qui viennent d'Alaska et de Sibérie. Sibérie, c'est le mieux préservé. Donc, c'est celui qui va vieillir le mieux, qui a le moins de craques et le plus blanc. Après, il y a l'ivoire d'Alaska qui, lui, si les températures sont un petit peu moins froides pendant un temps là-bas, donc l'ivoire est un petit peu plus pourri. Donc, c'est l'ivoire fossilisé, mais un petit peu moins bonne qualité. C'est un peu drôle qu'on mette de l'ivoire là-dessus. Bon, c'est très répandu. Mais en fait, si jamais on frappe la tête de l'archet quelque part, ça sert de pare-choc, à ce moment-là, c'est la plaque d'ivoire qui va briser et non le bois en dessous. La plaque de tête, on peut la changer. Par contre, si on brise la tête de l'archet, l'archet n'a plus de valeur. C'est terminé. C'est déterminé. On fait attention aussi de... Comment je pourrais dire? On n'utilise pas l'ivoire sur n'importe quel archet, pour n'importe quoi non plus. C'est vraiment pour des trucs bien spécifiques. Donc, par exemple, le bloc qu'il y a là, c'est pour une copie d'archet ancien que je vais éventuellement faire. Donc, on les garde précieusement. En fait, c'est quand on fait un archet, c'est un mélange de bijouterie, de sculpture, de montage. Après, c'est un métier qui est très conservateur, donc on essaye de garder toujours certains barèmes. Donc, pour qu'un archet, on va dire, un archet de qualité, on va mettre une plaque en ivoire, un archet un peu de moins bonne qualité, on va mettre une plaque en plastique. Il y a quelques archets qui sont faits avec des têtes, avec des plaques en argent, même avec des plaques en or aussi quelquefois. Par contre, c'est ça, il faut toujours s'adapter au niveau de l'équilibre puis tout. Donc, exemple, sur un archet de violon, l'archet de violon doit peser entre 60 et 62,5 grammes en moyenne. On a une longueur précise, on a une hauteur précise, on a une quantité de crin précise. Après, il faut juste s'adapter au niveau des proportions pour arriver à 2,5 grammes près au niveau de l'archet terminé complètement. Par contre, on travaille ben, pour les collages, c'est pratiquement centimes de millimètre à la main. Il faut qu'on a des plats parfaits, il faut que tout colle, faut pas qu'il y ait un joint qui paraisse. C'est vraiment un métier de précision. Au niveau de la baguette, je travaille en fait c'est au dixième de millimètre, au rabot, à la main. Donc on donne un coup de rabot de trop, on met ça de côté, puis on peut recommencer après. Donc ouais, c'est vraiment un métier de précision qui demande, c'est physique, mais en même temps, c'est très 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 mental aussi, ça demande une grande concentration. Mais c'est tout est dans les petits détails. À un centième près. C'est bon.